La parole du jour avec Paul Rodier.
Chers amis de Radio Grand Ciel, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine, en ce mois de novembre qui nous invite à porter notre regard vers le pauvre, image du Christ que nous devons servir et aider. Rappelez-vous Matthieu 25. Nous allons passer la semaine en compagnie de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Sa vie, ses écrits, ses cris, sa confiance en Dieu et en son Fils grâce à l'Esprit. Aujourd'hui, nous découvrirons sa biographie et l'importance qu'elle accordait à la prière. Demain mardi, nous nous pencherons plus particulièrement sur la manière dont elle vivait l'Eucharistie et le rapport avec le soin du pauvre. Mercredi, nous verrons la relation spéciale qu'elle avait avec Marie. Jeudi, nous découvrirons comment Mère Teresa concevait le service. Enfin, vendredi, comment voir la pauvreté. Pour commencer, écoutons cette anecdote. C'est le jour de l'enterrement de Mère Teresa. On avait organisé des funérailles nationales, de nombreuses personnalités religieuses et politiques étaient invitées. La célébration était prévue dans un stade pour aller pouvoir permettre à tous ceux qui le voulaient d'y assister, surtout aux pauvres qui pleuraient d'avoir perdu leur mère. Soudain, alors que tout était prêt et que la foule amassée dans les gradins allait pouvoir commencer à prier pour Mère Teresa, un ministre du gouvernement indien arriva et ordonna aux sœurs de retirer la croix qui était placée près de l'autel. Il s'agissait d'une cérémonie d'État et il fallait respecter les autres religions. L'objet du débat était un grand crucifix peint en l'honneur de Mère Teresa par un artiste hindou. La messe ne commencerait pas tant que ce signe distinctif trônerait au milieu de rassemblements organisés par l'État pour des Indiens de multiples religions. Personne ne savait quoi faire. Les sœurs, abattues par le chagrin, restaient sans mots. Heureusement, le Premier ministre arriva sur ces entrefaites. Il déclara « Cette femme a fait tout ce qu'elle a fait à cause de cet homme. Donc, en indiquant le crucifix, cet homme reste où il est. » Mère Teresa, de son vrai nom Agnès Gongsa Boyaksiou, est née le 26 août 1910 à Skopje en Macédoine. Elle fut baptisée le lendemain de sa naissance. Ses parents, albanais, s'appelaient Nicolas et Dran. Ils avaient déjà deux enfants, Age et Lazare. Deux autres filles étaient décédées à leur naissance. Mère Teresa écrivait ainsi sa famille. Nous sommes une famille très heureuse, une famille belle et unie. Les Boyaksiou étaient des gens aisés. Le père, entrepreneur en bâtiment et importateur de produits alimentaires, ne refusait jamais son aide aux pauvres. La maman participait à la vie de la paroisse et donnait à ses trois enfants une éducation religieuse qui se concrétisait dans l'aide aux nécessités auxquelles elle donnait à manger et qu'elle accueillait souvent dans sa maison. Souvent, Agnès, Mère Teresa, l'accompagnait. À 9 ans, elle perd son papa dont elle dit, je cite, « Papa Nicolas me disait, ma fille ne prend jamais, n'accepte jamais, une seule bouchée sans la partager avec les autres. L'égoïsme est une maladie spirituelle qui te rend esclave et t'empêche de vivre ou d'être au service des autres. » Au moment de mourir, il dit à sa femme Dran, « Ne te fais pas de soucis, tout ira bien, tout est entre les mains de Dieu. » Dran, je t'en prie, veille sur nos enfants. À partir d'aujourd'hui, ils sont à toi et à Dieu. La tradition de s'occuper des pauvres demeura. Je cite Mère Teresa. Beaucoup de pauvres de Skopje et des environs connaissaient la porte de notre maison. Jamais personne ne repartirait les mains vides. Chaque jour, quelqu'un à table pour déjeuner. Les premières fois, je demandais à ma mère, qui sont ces gens? Et elle me répondait, certains sont de notre famille, les autres sont des proches de toute façon. Quand je fus plus grande, je compris que c'était des pauvres, des gens qui n'avaient rien et que ma mère nourrissait. À 12 ans, Mère Teresa entend l'appel à la vie religieuse au sanctuaire de Krnagora à Letnice, non loin de Skopje. C'est là qu'elle a entendu la voix du Seigneur pour la première fois, écrira-t-elle. Elle s'inscrit à la confrérie de la Vierge Marie, dont une des activités est de découvrir la vie des missionnaires. C'est ainsi que mûrit en elle la conviction que le Seigneur la voulait missionnaire. C'est pourquoi, à 18 ans, elle quitte Skopje et accueillit comme postulante par les Sœurs de Lorette, une congrégation irlandaise ayant son siège à Dublin. C'est là qu'elle apprit l'anglais, qui devint sa langue usuelle. En 1929, le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, elle arrive à Calcutta, ravie, dira-t-elle, d'arriver avec les rois mages. En 1931, elle fait sa profession religieuse et elle prend le nom de Sœur Teresa pour souligner son lien avec la petite Thérèse de Lisieux. En 1937, elle prononce ses vœux perpétuels et prend son nom définitif de Mère Teresa. On lui confie la charge d'enseignante à l'école secondaire bengalie Sainte-Marie. Elle écrit, je cite, « Je pris encore une autre charge, l'école Sainte-Thérèse qui se trouve à Calcutta. Le jour même où l'on me confia cette tâche, j'allais sur place pour me rendre compte de la situation. L'école était assez loin de notre maison et donc tous les jours j'y vais dans une voiturette indienne. Ainsi j'arrive avant mes élèves. Quand mes petits m'ont vu pour la première fois, ils se sont regardés entre eux. Ils se sont demandé si j'étais un esprit mauvais ou une déesse. Pour eux, il n'y a pas de milieu. Si l'on est gentil avec eux, ils vous adorent comme une divinité. En revanche, ils craignent les gens qui se montrent malveillants envers eux, comme si c'était des démons, et se contentent de les respecter. » En septembre 1944, tandis qu'elle se rend par le train à Darjeeling pour les exercices spirituels annuels, elle reçut, dit-elle, l'appel dans l'appel. Elle fit l'expérience du Christ assoiffé de son amour et de sa vocation à porter la charité de Dieu aux pauvres en créant la famille des missionnaires de la charité. Elle écrit « Je savais que je devais les suivre en me tournant vers ceux qui, à l'image de Jésus, n'ont pas où poser la tête, ceux qui connaissent la nudité, le mépris, l'abandon. Il n'y avait pas de doute, le message était très clair, c'était un ordre. Je savais à qui j'appartenais, mais je ne savais pas comment y parvenir, j'ignorais comment tout cela se ferait. Alors, j'ai laissé Dieu se servir de moi à sa manière, une manière qui m'était inconnue. » Le 12 avril 1948, Mère Teresa obtient l'autorisation de quitter la congrégation des Sœurs de Lorette. Le 16 août, elle arrive à Patna, à l'hôpital de la Sainte Famille des Sœurs de la Mission, où elle apprend les notions de base pour soigner les malades. En décembre, elle retourne à Calcutta et commence à travailler à Mitjil, un bidonville. Elle réunit quelques enfants et commence à faire la classe dans la rue. Le 19 mars 1949, en la fête de Saint-Joseph, elle est rejointe par une de ses anciennes élèves. Dans l'année, trois autres jeunes filles vont se joindre à elle. C'est durant cette période que Mère Teresa commence à écrire les constitutions des missionnaires de la charité. Aux trois vœux classiques de chasteté, obéissance et pauvreté, un quatrième est ajouté, celui de charité envers les plus pauvres parmi les pauvres. Le 14 décembre 1951, Mère Teresa reçoit la nationalité indienne. La charité envers les plus pauvres parmi les pauvres fit comprendre à Mère Teresa que soigner les malades dans les dispensaires, enseigner aux enfants des bidonvilles et visiter les pauvres dans leur logis précaire ne suffisait pas. Il fallait trouver un refuge pour les mourants. On mit à sa disposition un bâtiment situé près du temple de la déesse Kali. Le 22 août 1952, fête du Sacré-Cœur de l'Immaculée de Marie, patronne de la nouvelle congrégation, Mère Teresa ouvre le premier Nirmal Ride, lieu du cœur immaculé. Cette maison a été appelée « Premier amour de la mère » parce qu'il concrétisait l'aspect particulier du charisme de Mère Teresa. Pour elle, chaque malade, chaque mourant représente le Christ déguisé en pauvre. Les fondations se multiplient dans d'autres villes d'Inde et dans le monde entier, Venezuela, en Europe, en Afrique, au Proche-Orient. En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la paix. En recevant ce prix, elle dira « J'espère que ce sera un véritable moyen pour apporter aujourd'hui la paix et le bonheur dans le monde. » Elle saisit également cette occasion pour parler de la pauvreté spirituelle de l'Occident. Une pauvreté, dira-t-elle, très difficile à combattre, car marquée par la solitude des personnes et accompagnée par l'expérience du sentiment d'exclusion et de rejet. Elle écrira et répétera souvent de vive voix le fruit du silence et la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Le 5 septembre, elle s'écroule d'épuisement à Calcutta. Les sœurs de la maison mère sont à son chevet et elle prie en murmurant « Jésus, je t'aime. Jésus, j'ai confiance en toi. » Elle meurt ce même jour à 20h57. À la question qui lui était posée par ses sœurs, « Comment apprendre à prier ?» Elle répondait « En priant. Si vous priez davantage, vous prierez mieux. Aidez-vous de tous vos sens pour prier. Faites particulièrement attention à la manière dont vous vous agenouillez, dont vous tenez vos mains jointes quand vous passez à la chapelle en sortant de la maison ou au retour. Prenez de l'eau bénite et utilisez des images saintes pour élever votre esprit vers Dieu. Prier généreusement ne suffit pas. Il faut prier avec dévotion, ferveur et piété religieuse. Il faut prier avec persévérance et beaucoup d'amour. Prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est se mettre entre les mains de Dieu, se mettre à sa disposition et écouter sa voix au fond de son cœur. À demain.